le gouvernement n'a qu'une seule obsession, cacher cette terrible réalité et faire taire toutes les voix qui s'y opposent.
Parlons-en un instant.
On entend souvent dire « notre civilisation, notre société, elle va droit dans le mur ».
Et c'est le moment de subir des électrochocs.
Qu'est-ce qu'on construit? Si ça s'effondre, il faut construire et aller voir ce qui peut émerger, les jeunes pousses de ce qui émerge suite à l'effondrement de cet arbre géant.
Prenez place au comptoir du monde, vous êtes bien sûr Radio Balade, 101.8 en compagnie du compagnon idéal pour refaire le monde, c'est la merveilleuse clientèle du Café de Fa. Bonsoir. Votre serviteur s'appelle Aurélien, mais pour faire tenir un comptoir, il faut deux piliers. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir mon cher Aurélien, et puis il y en a plus que deux ce soir, on est nombreux autour de la table.
À tes côtés, nos deux invités, Laetitia Gergaud, résidente de Montbel et membre du collectif À Pas de Loutre, et Joseph Michel, membre de l'association des naturalistes de l'Ariège. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors aujourd'hui, on va parler de lutte et accrochez-vous bien, on vous emmène dans une forêt pas si lointaine. On l'entend, vous l'entendez, vous le reconnaissez? Eh oui, le coucou. Coucou, c'est le nom d'un projet de complexe touristique sur les rives du lac de Montbel. Et comme son homologue à plume, le coucou qui nous intéresse ce soir a l'habitude de faire son nid chez les autres au détriment de l'espace vital des espèces déjà présentes. Donc c'est ce que nous verrons un petit peu en détail avec Joseph. Mais dans un premier lieu, Laetitia, toi qui es résidente de Montbel, est-ce que tu peux nous raconter l'origine de ce projet? Qu'est-ce que ce coucou finalement vient faire là et qui l'a invité?
Alors, le coucou, en fait, a été invité un peu avant l'été 2018 par un acteur, en fait, qu'on a tendance à oublier, mais bon, ça va, on commence à le nommer quand même assez souvent, c'est AAA, Agence Ariège Attractivité. Donc, c'est une agence, en fait, un peu dépendante du département et qui s'occupe, justement, de nous trouver des super projets comme ça pour l'Ariège. Donc en fait, AAA a mis en contact Coucou avec la communauté des communes du pays de Mirepoix et tout s'est enclenché. Le projet s'est élaboré en toute discrétion en fait jusqu'à l'année dernière en fait, période à laquelle a eu lieu l'enquête publique de la révision du PLU de Montbel. Et en fait, personne n'était au courant de ce projet. Certains en avaient entendu vaguement parler, mais en fait, ça s'était élaboré en toute discrétion. Donc en fait, pendant cette enquête publique, vu qu'on s'est rendu compte que personne n'était au courant aux alentours et plus loin, en fait, on a décidé de 4 habitants de Montbel, on a rédigé une pétition qui était plus un moyen d'informer la population puisqu'elle ne l'avait pas été. Voilà, c'était plus un moyen d'informer la population que de faire une pétition et d'avoir des voix contre.
Donc au départ, vous n'étiez pas forcément en train de monter une contestation, un collectif, simplement d'essayer de savoir ce qui était en train de se passer à l'endroit où vous vivez.
Voilà, c'est ça. On a décortiqué un peu le dossier de cette fameuse révision et puis on s'est rendu compte effectivement que la révision du PLU intégrait le projet Coucou, donc une société qui s'affiche comme un des premiers leaders montants de l'écotourisme. Et qui avance une démarche éco-responsable, mais bon, quand on lit le dossier et qu'on connaît l'endroit qui est convoité, donc c'est-à-dire le lac à niveau constant de Montbel, en fait, c'est un secteur où il y a énormément d'enjeux environnementaux. Hein, les enjeux sont déterminés depuis un moment déjà. Et voilà, Coucou voudrait s'installer dans cette zone.
Et alors, qu'est-ce qui a alerté les naturalistes de l'Ariège? Donc, il y a cette association, l'association des naturalistes de l'Ariège, dont tu fais partie, Joseph. Qu'est-ce qui vous a alerté dans ce projet? Pourquoi est-ce que ça a été un drapeau rouge pour vous? Qu'est-ce qui vous inquiète?
On est plusieurs de l'association naturaliste à faire partie du collectif. Nous, ça fait 35 ans qu'on fait des sorties, qu'on inventorie un petit peu tout ce qu'il y a sur ce terrain. Moi, je m'intéresse beaucoup aux plantes, mais il y a des ornithologues, des herpétologues, etc. Et donc, on avait déjà des quantités de données naturalistes. Et ce qui nous a interpellés, justement, c'est qu'on venait de balancer un projet. Les élus avaient demandé d'investir ce lieu, qui est un des plus riches du lac de Montbel. Le lac de Montbel, je rappelle, c'est 550 hectares. 60 millions de mètres cubes d'eau. Et ce côté-ci a une retenue à niveau constant. Et c'est cette partie-là qui a été choisie pour l'implantation. Et donc pour nous, c'est un petit peu abusif.
C'est-à-dire que cette retenue, ce lac à niveau constant, c'était dès le départ, dès le moment où a été faite cette retenue d'eau, qui est aujourd'hui le lac un peu de loisir de Montbel, c'était une compensation environnementale pour l'ensemble du projet. C'est-à-dire c'était un endroit qu'on sanctuarisait et où on laissait la biodiversité se développer.
C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il y avait, quand le lac s'est créé, il y a eu une contestation des petits propriétaires sur la commune de Montbel. Et on leur a dit, on va vous faire des digues, on retiendra l'eau et peut-être vous pourrez l'investir pour les loisirs, pour le tourisme, etc. Et 36 ans ont passé sans qu'un seul projet vienne là-dessus. Or, il y a 10 milieux naturels qui se mélangent, qui sont présents, du milieu artificiel des digues aux pâtures, et on vient prendre des terres agricoles, une forêt, une partie de l'eau, pour implanter ce projet.
Alors justement, en quoi il est si important ce lieu, ce territoire ? C'est globalement une forêt au bord d'un lac à laquelle on a fichu la paix pendant 36 ans, c'est ça ?
Voilà, et elle a des côtés remarquables. Par exemple, les sapins qui sont là, normalement, si on lit une flore, les sapins, c'est 1000 mètres d'altitude. Ici, ils se reproduisent, il y a des semenciers, parce qu'ils sont issus d'une forêt très ancienne. De même pour les hêtres, en basse altitude, c'est une chose assez rare. Et puis tout un cortège de plantes aquatiques qui est venu du fait des 79 hectares d'eau, 5,5 millions de mètres cubes. Il y a la nitelle qui est une algue annuelle qui est le deuxième herbier après la Camargue en France. Il y a un potameau, le potameau luisant, qui lui est le premier herbier d'Occitanie, qui sont là, présents. Et on implante les cabanes dessus. Et on fera circuler des petits bateaux électriques au milieu de tout ça.
Alors, tu vas pouvoir répondre là-dessus, mais Laetitia aussi peut-être. C'est-à-dire que les défenseurs du projet expliquent que l'emprise, finalement, sera très faible, puisqu'il s'agit de cabanes en bois. Au regard de la superficie totale de la forêt, semble-t-il, ça ne représente pas grand-chose, et puis ça permettrait de sanctuariser, justement, le reste de toute cette zone-là. C'est quoi les réponses qu'on peut apporter quand on est naturaliste de terrain ?
Quand on est naturaliste, qu'on a fait l'inventaire de tout ce qu'il y a là, c'est tellement énorme que... Pour nous, c'est une zone qui, je ne sais pas si vous savez, mais au niveau des bruits, au niveau des lumières, au niveau des odeurs, au niveau de toutes les communications qu'il va y avoir, c'est vraiment impactant pour ce lieu-là. Hein. Ça ne peut même pas se discuter. Ce n'est pas parce qu'on va mettre une partie en réserve qu'on protège l'autre. Hein.
Et puis c'est quand même 6,5 km de berge. Les porteurs de projets ne parlent pas toujours des hectares, de la superficie du lac en lui-même. Mais comme l'expliquait Joseph, en fait, la nitelle, les herbes aquatiques, les zones humides en fait, qui sont développées et qui sont en développement vont pâtir du projet. Quoi. Donc l'emprise du projet, elle est sur ces 75 hectares de surface d'eau.
Alors, on a aussi autour de la table la chance d'avoir un autre habitant de Montbel. On a Lilian Tachon aussi du collectif à Pas de Loutre. Lilian, tu voulais rebondir sur justement cette question de l'emprise finalement du béton à l'intérieur de ce projet, sur le potentiel d'artificialisation des terres que ça représente.
Oui, en fait, l'emprise, il faut se rendre compte. Bon, déjà, béton, il y en aura sûrement un peu, mais... On va faire attention à ce mot-là parce qu'ils sont très éco-responsables, donc c'est beaucoup de bois, très peu de béton. Mais par contre, c'est sûr que c'est des zones complètement naturelles et il n'y a pas d'accès autour du lac. Quelques petits sentiers qui ont été faits au fil des ans par les pêcheurs, les petits randonneurs comme ça. Et là, ils vont créer des accès pour les véhicules, pour les pompiers, des accès carrossables pour les voitures électriques. Donc d'un endroit complètement sauvage, ils vont en faire un lieu anthropisé où tous les promoteurs pourront venir se balader. Quoi. Et donc, il faut bien être conscient que Montbel, c'est le lac constant, mais c'est aussi le grand lac, le lac à niveau variable. Et ce lac, tout le tourisme a été développé autour de ce lac. Et il y a de plus en plus de monde autour de ce lac. Il y a des projets, il y a des zones AUL, des zones urbanisées de loisirs qui ont été ouvertes pour développer le tourisme. Et il y a un moment, ça va être saturé. Et le problème, c'est que si on développe aussi ce côté-là, la faune n'aura plus sa place à Montbel.
Donc finalement, même si on construit en bois, il y a toute la question des réseaux et puis la question aussi des nuisances, j'imagine, pendant le chantier. C'est-à-dire que y a un animal qui a été observé peut-être en voie d'installation définitive sur la zone qui est la loutre. S'il y a des travaux, des marteaux-piqueurs, etc. pendant un an pour construire tout ça, j'imagine que cet animal, il risque de fuir la zone, non ?
La loutre est emblématique pour nous, mais on l'a déjà repéré plusieurs fois en tant que naturaliste, des restes de repas, des crottes, etc. Mais elle ne fait que passer, elle n'a pas élu domicile ici. Mais par exemple, quand ils ont mis les caméras pour contrôler sa résidence, ils ont quand même vu des sangliers, des blaireaux, des genettes, des martres, des visons d'Europe, des ragondins, etc. La biodiversité, pour nous, c'est tout ça. C'est pas du tout que la loutre. Or, la loutre, ça a inscrit le projet dans tout un système de réglementation. Et n'ayant pas de loutre, ça autorise presque à faire fuir tout le reste.
Et en plus des infrastructures, en fait, faut pas oublier non plus la présence humaine constante. Pour l'instant, en fait, effectivement, en tant que promeneur, en tant que randonneur, en tant que pêcheur, il y a du passage, mais c'est ponctuel. Là, ça veut dire une présence constante qui va forcément faire fuir, une présence humaine constante qui va forcément faire fuir des espèces.
Ouais, puis il y a aussi cette question-là comme ces espaces sont en libre accès, qu'est-ce qui va se passer quand ce sera sous contrôle, on va dire, du projet hôtelier.
On suppose que l'accès, de toute façon, sur les berges ne sera plus autorisé. C'est quand même des nuitées entre 150 et 300 euros la nuit. On ne pense pas que tous les promeneurs seront les bienvenus à côté des cabanes et les gens qui sont dans leur spa.
Après aussi, il faut bien connaître la configuration de Montbel et du lac Constant. C'est-à-dire qu'une fois de plus, au lac Constant, il n'y a pas de sentier qui fait le tour. Il y a juste sur la presqu'île, il y a un petit sentier qui longe vraiment les berges avec des petites clairières que les pêcheurs ont créées et des gens qui font des bivouacs, des petits campements. Mais là, avec le projet de cabane, ce qu'ils veulent faire, c'est que ces sentiers vont disparaître et ce sera des voies carrossables à 30 mètres des berges. Et là, par contre, ça porte ouverte à tout le monde parce qu'ils ne privatisent pas. Et là, par contre, il y aura du monde. Quand il suffit de se balader le dimanche après-midi à Montbel, en hiver, dès qu'il y a un peu de soleil, même en hiver, quoi, je veux dire, même pas l'été. Il y a déjà un peu de monde. Mais par contre, personne ne va au lac Constant. Très peu prennent le petit passage là, pour aller sur la presqu'île. Mais là, vu qu'il y aura ces accès, tout le monde va aller là-bas. Les vélos, c'est ça le drame. C'est pas juste les 70 clients de coucou, quoi.
Bon, de toute façon, la dynamique actuelle de passage, elle est compromise. Et donc, on suppose qu'effectivement, les berges seront plus d'accès libre. Mais qu'effectivement, ces gros sentiers vont amener plus de présence humaine.
Juste un chiffre, ces cheminements-là, les voies de secours et les voies d'accès pour les voiturettes électriques, pour aller aux cabanes et pour laisser passer les randonneurs, c'est 1 hectare 300. C'est-à-dire que le milieu forestier va être impacté directement. On va faire ces sentiers en dur, 2,80 m et 1,80 m, et puis on va... le risque, justement, c'est même s'ils sont perméables, on prétend qu'il n'y a pas d'impact, mais si, il y a un impact extraordinaire, quoi.
Ce que je comprends bien, c'est que les habitants et les associations naturalistes, même des personnes hors du territoire, se sont mobilisées et se sont joints finalement dans ce collectif qui n'a pas de loutre. Voilà, comment est-ce que, à partir de là, vous avez décidé d'agir pour protéger ce site ou du moins pour essayer de minimiser l'impact de l'installation du projet s'il se faisait. Ça a été quoi votre interlocuteur principal? Comment est-ce que vous avez lancé toute cette démarche?
C'est un petit peu un appel au peuple, hein. C'est-à-dire qu'on a, essayé d'expliquer ce qu'il y avait sur le site, comment fonctionnait cette biodiversité. On a essayé de communiquer énormément là-dessus, et c'est ce qui a permis aux gens de mieux comprendre de l'impact potentiel, parce que c'est quand même une artificialisation, une prédation du milieu. Ils prennent ce milieu pour... maintenant, ils prétendent même le protéger. Le parc aura pour titre le parc résidentiel de loisirs. C'est pas rien, quoi.
Alors aujourd'hui, dans À Pas de Loutre, il y a combien de personnes dans ce collectif, combien de structures? C'est quoi ce front que vous fédérez là?
Dans le collectif, il y a un noyau d'une vingtaine de personnes. Après, ce collectif, il a été créé, donc c'est pas... Bien sûr, il y a un noyau de 20 personnes, mais ce collectif, il a été créé avec trois axes, en fait. C'est d'informer la population, de relayer aux gens les données des associations environnementales, pour bien savoir de quoi on parle, effectivement, parce qu'on se fait un peu taxer d'opposants contre tout, mais non, en fait, on s'oppose pour justement que cette... La configuration actuelle, elle perdure, que la naturalité qui peut se développer depuis 36 ans, depuis la création du lac, puisse continuer.
Combien de personnes ça représente aussi tout ça derrière, voilà, de personnes mobilisables? Parce que tu le dis, il y a une vingtaine de personnes dans le collectif,
voilà.
Mais quand vous faites un événement sur place, c'est des centaines de personnes.
C'est ça, c'est, en fait ce collectif, il est aussi, étant donné que ce projet s'est élaboré en toute discrétion, les élus n'ont absolument pas consulté la population. C'est aussi un espace qu'on crée pour justement, en fait, les gens aient les données et se rendre compte qu'effectivement, ils peuvent donner leur avis, même si le projet semble pour les élus ficelés. On continuera jusqu'au bout à dire que non, ce projet ne doit pas aboutir.
Lors du dernier rassemblement à Montbel, là, début février, vous avez fait venir beaucoup de monde, non? Il y avait quelques centaines de personnes, Lilian?
Pour la manifestation à Montbel, la dernière, on était un millier de personnes. L'année dernière, à la même époque, on était 400. Donc on n'a pas triplé, mais presque. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens au courant, des gens qui l'année dernière n'étaient pas sûrs de notre truc. Ils disaient ouais. Et puis maintenant, à force de voir le lieu, de voir vraiment ce qui se passe. Et cette année aussi, on a organisé avec Joseph, justement, pendant 6 semaines, il y a eu des balades botaniques avant l'été. Du coup, il y a beaucoup de gens qui sont passés, qui ont vu l'endroit, qui ont vu où ça se passe et qui ont compris, en fait, les enjeux. Parce que quand on voit comme ça sur une carte, et d'ailleurs, c'est tout le jeu de Coucou et de la communauté des communes qui ont des cartes, des PLU. Alors ils mettent des zones en naturel protégé, des zones en AUL, tout ça. Ils se font un petit jeu de cartes comme ça. Mais dès qu'on va sur le lieu, on se rend compte en fait, vraiment ce qu'ils cherchent Coucou, c'est cette richesse, comme ils appellent. Eux, ils appellent ça un écrin de nature. Et un écrin exceptionnel. Et c'est vrai qu'un écrin, si on regarde bien, c'est une boîte où on met un petit bijou dedans. Et Coucou, ben, je pense que c'est le bijou. Et donc, ce bijou-là, on n'a pas envie, en fait. Nous, on préfère tous les diamants qu'il y a partout, qu'on ait tous des petits diamants. Et puis leurs gros bijoux, ben, ils vont voir plus loin, ils vont voir ailleurs, quoi. Et je pense que c'est comme ça que nous, on le ressent et qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont ressenti, en fait. De plus en plus de monde est convaincu, je pense.
La manifestation de l'an passé, c'était 400 personnes après 2 mois de mouvement. C'était énorme déjà.
Ouais, parce que moi je vois quand même qu'il y a eu, lors de l'enquête publique, selon les chiffres que j'ai trouvés là, il y a quand même 65% des personnes qui ont émis un avis défavorable à la modification justement du PLU. Et donc, ça veut dire quand même quelque chose. S'il y a, dans une enquête publique, 65% des gens qui s'expriment qui sont contre, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Même si, bien sûr, ça a été acté ensuite, par la suite.
Bah après, ils préfèrent nier ces 65%. Après, il faut quand même savoir aussi que normalement, il y aurait dû avoir... Alors officiellement, elle a eu lieu. Officiellement, il y a eu une concertation préalable à Montbel qui s'est déroulée officiellement entre le 16 décembre 2019 et le 26 février 2020. Mais en fait, concrètement, cette concertation n'a jamais eu lieu. En fait, notre maire s'est donné l'autorisation de la faire disparaître du processus démocratique. Et pendant cette même période, donc du 16 décembre au 26 février, il y a eu lieu un conseil municipal. Et c'est lors de ce conseil municipal... C'est là que les différents membres du conseil municipal ont appris l'existence de ce projet. En fait, ils savaient très bien qu'ils seraient mal reçus parce qu'ils savent très bien que ce n'était pas la zone où il fallait installer un projet comme ça parce qu'ils étaient totalement conscients des enjeux environnementaux. Donc, il fallait mieux le préparer en toute discrétion. Et on sait très bien qu'une fois les projets ficelés, c'est beaucoup plus difficile de faire machine arrière.
Donc, on annonce qu'on concerte quand c'est prêt, quoi. C'est prêt, on concerte, on y va. C'est le processus accéléré de la démocratie.
Bon, ben, merci beaucoup hein, pour cette petite mise en jambe. On va bien sûr pouvoir se projeter sur la suite hein, de la lutte, mais on le fera bien entendu sans armes, sans haine ni violence.
Sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. La fronde commence sur cette place, ces casques lourds qui nous font face. Nous les défions, folie ou inconscience, sans haine, sans armes, sans violence. Nous sommes d'une espèce non protégée, notre obsolescence est programmée. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans aucune condition de ressources, ils voudraient que l'on parte au pas de course, acheter des biens de grande consommation au premier tir de sommation. Que nous leur portions cette marchandise, objet de toute leur convoitise, leur précieux, leur cœur de cible, du temps de cerveau disponible. Oh qu'ils chérissent tant ce cœur de cible, ce temps de cerveau disponible. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. De la sainte finance, toxicomane, accro à la croissance. Nous sommes de ceux qui vous désobéissent, la plèbe blasphématrice. Jetez-nous l'opprobre, jetez-nous la pierre. Vos grenades suffiraient-elles à nous faire taire? Croyez-vous que nos combats soient périssables, nos engagements jetables? Croyez-vous que nos combats soient périssables, nos engagements jetables? Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans haine, sans armes, sans violence. Sans haine, sans armes, sans violence. Sans haine, sans armes, sans violence. Sans haine, sans armes.
Vous êtes de retour au comptoir du Monde sur Radio Balade, où l'on parle de lutte locale en public au Café de Fa. Bonsoir le Café de Fa. Nous sommes avec Laetitia, Joseph et Lilian du collectif à Pas de Loutre qui s'oppose à un projet de centre touristique au bord du lac à niveau constant de Montbel. Alors comment avez-vous fait les amis pour mobiliser les foules et ramener tant de monde début février sur place? Vous parliez de 1000 personnes tout à l'heure pour donner de la voix contre le projet. Comment on maintient une vigilance citoyenne sur un dossier comme celui-ci?
Déjà on est convaincus que notre position est juste. On a créé une boîte mail assez rapidement après la création du collectif, où justement qui nous permet d'informer, de relayer des données, des informations. Et puis je crois que les gens sont conscients que la cause est juste, quoi, et puis que eux non plus n'ont pas envie et ont bien compris que ce projet est incohérent.
Il faut pas oublier non plus les réseaux des associations. Nature en Occitanie, le comité écologique ariégeois, le Chabot qui s'occupe essentiellement des rivières et des questions d'eau. Et ce sont c'est plus que des associés, hein, c'est des gens avec qui on a une très grande solidarité et qui dès le début sont montés au créneau à la simple lecture des documents qui étaient dans l'enquête publique. Moi, je voudrais dire aussi, préciser qu'une enquête publique, c'est quand même un passage obligé. Ça ne représente plus rien au niveau de la participation. Beaucoup d'enquêtes sont contre les projets, avec des arguments bien, bien étayés. Et ça passe quand même. Et par exemple, on a un commissaire enquêteur qui dit « Ah ben, il y a 5 cabanes de trop, on va en enlever 5. Sur quelle base? Pourquoi ? Il n'y a rien qui est... Ça fait trop, c'est tout. Ce discours-là, moi, m'épuise. Hein. Je n'arrive pas à suivre, là.
Sachant qu'un projet comme Coucou, en général, c'est 20-25 cabanes. Ils n'ont jamais des projets à 30 cabanes. Du coup, demander 30 cabanes et à la CNET publique descendre à 25, pour eux, je pense que ça ne leur pose pas trop de soucis, quoi.
Ouais, on a l'impression que c'est pas vraiment co-construit avec les citoyens, qu'on a quelque chose qui se fait dans des bureaux feutrés et que voilà, on n'est pas consulté. Mais le fait d'avoir 1000 personnes qui viennent à un rassemblement comme ça, ça vous donne un poids, une force politique auprès de qui vous pouvez faire valoir la voix de toutes ces personnes, tout ce soutien. Lilian ?
Auprès de qui je sais pas. Après, c'est auprès de la population, en fait. Après, on a eu des soutiens. On a fait une manifestation avec... par exemple, on a fait une lettre pour des signataires, pour des gens qui veulent nous soutenir. Alors, il y a eu des naturalistes, des élus politiques, des écrivains de la nature, des écrivains tout court. Enfin, plein de gens au niveau national. Et du coup, on a voulu faire parler aussi ces gens qui nous ont soutenus au moment de ces signatures qu'on a fait à l'automne. Et donc, on en a invité quelques-uns, les plus proches, en fait, pour cette manifestation, qui sont venus discuter avec nous. Donc, on avait les deux députés d'Ariège, quand même, qui sont venus s'exprimer. Donc, le député de la circonscription de Mirepoix-Pamiers, donc qui nous concerne, et la députée n'y était pas, mais il y avait son attaché parlementaire, voilà, qui était là. Et donc on a quand même des élus politiques avec nous, des maires aussi de villages, un qui n'a pas pris la parole mais qui nous a soutenus, qui fait partie de la Comcom voisine. Et ensuite, je pense que c'est au niveau de la population que ça va se jouer. C'est au nombre, c'est le nombre qui les fera pencher, parce que eux n'ont pas envie. Ils veulent continuer, ils veulent y aller. Ils ont les moyens de prendre le temps, parce qu'ils ont beaucoup de moyens. Et du coup, ils peuvent nous avoir à l'usure, mais il faut que nous on soit là et qu'on continue la communication. Pour la communication aussi, on a oublié, il y avait toute une équipe marché aussi qui a fait tous les marchés de la région pendant 2 mois pour communiquer partout. Et puis dans les magasins, dans pas mal de magasins aussi de l'Ariège et de l'Aude, où on a mis pas mal de tracts, d'informations. Et voilà, des gens qui sont des commerçants. Et qu'aujourd'hui, il y a eu un article sur le journal comme quoi, là, comme quoi on dit « Ouais, mais les commerçants sont pour » et tout ça. Bon, nous, on a mis plein de boîtes chez des commerçants, ils ne sont pas forcément pour. L'influence, c'est sur la population, en fait, en général, quoi. Qu'ils aient des statuts ou pas, c'est pareil, en fait.
Et après, c'est sûr que depuis le début, ils sont quand même dans une stratégie à essayer de décrédibiliser notre mouvement, enfin, le mouvement qu'on a mis en place, en fait. Mais voilà, la dernière manif, c'est vrai que du coup, il y a eu des élus qui sont venus, qui ont eu aussi exprimé leur point de vue. Et ça, ils aiment moins. Parce qu'effectivement, ils aimeraient croire que ce collectif, c'est voilà, on a été taxé de tous les noms, de contre-tout, d'idéologues anticapitalistes, et alors ? Et à un moment donné, l'idéologie, elle est peut-être à voir de leur côté. Ça montre juste qu'à un moment donné, ils voudraient faire des généralités qui les arrangeraient, mais non, ça fonctionne pas. C'est une évidence que ce projet n'est pas cohérent, qu'il n'est pas éco-responsable, et ils veulent continuer à nier l'évidence. Et c'est vrai que du coup, de voir ces élus s'exprimer, ça les embête, parce que effectivement, les élus ont plus de poids que des pauvres petits citoyens. Et c'est vrai que voilà, il y a des élus qui se positionnent pas. Bien sûr qu'il y en a plein qui sont pour ce projet, mais il y a aussi des gens qui ne se positionnent pas. Et il faut savoir aussi que ce vote, en fait, quand il a eu lieu, le vote de ce projet, il y a d'ailleurs un élu qui l'a mentionné à la manifestation. Les projets sont votés, en fait, mais les dossiers ne sont même pas lus, en fait. Donc les gens votent des projets, mais sans avoir les éléments pour faire un choix éclairé. Et ça, c'est pareil, cette évidence, c'est une évidence, mais voilà, ils ont des bonnes stratégies de communication, et ils l'utilisent, mais l'évidence est là.
Oui, il faut rappeler aussi ce que c'est que ce groupe Coucou. Est-ce que vous pouvez nous donner des petits renseignements sur qui sont ces personnes ? Parce que finalement, ça, on en revient quand même toujours au même point. Hein. Je ne veux pas être redondant dans cette émission, mais il faut aussi parler des personnes en elles-mêmes.
Lilian.
Du coup, Coucou, c'est deux personnes à la base. C'est Gaspard de Moustier. Enfin, à la base, c'est Gaspard de Moustier. Ensuite, il a été rejoint par une personne qu'il a rencontrée, qui c'est Emmanuel de la Bédoyère. Et donc, c'est deux personnes qui sortent de banques d'affaires, en fait, qui ont fait des études de finance. Et chacun, dans leur côté, dans leur famille, ben, ils ont des grands châteaux qui sont des hôtels de luxe avec des terrains de golf autour de l'hôtel. Et donc, c'est des professionnels du tourisme de luxe. Donc, ils sont nés là-dedans. Enfin, ils ne sont pas vraiment nés là-dedans, mais leur famille a créé ça. Eux, ils sont gestionnaires de ces établissements. Et maintenant, pour se démarquer, ou je sais pas, faire encore plus d'argent, je ne sais quoi. En tout cas, ils ont monté ce projet Coucou, et ils en sont au cinquième, bientôt, trois ou quatre en France, ce serait le cinquième, je ne suis pas sûr, enfin, un truc comme ça, et ils veulent en faire encore 12 d'ici 2025, je crois.
Alors, parlons du présent, et puis de l'avenir. Ça en est où aujourd'hui ce projet, c'est-à-dire qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les travaux de commencer, et qu'est-ce qui pourrait les empêcher de commencer à l'avenir ?
Les empêche, c'est 1000 clampins qui sont pouettés à Montbel, quoi. Je crois que c'est ça qui les empêche actuellement, parce qu'ils ont toutes les autorisations. Et ça, je crois que le fait qu'il y ait une opposition, mais comme je disais tout à l'heure, ils prennent le temps, ils y vont avec des pincettes. Sûrement que les entreprises ne sont pas tout à fait prêtes encore, mais nous, on ne sait pas quand c'est qu'ils vont commencer, mais en tout cas, ils ont toutes les autorisations. Par contre, on a posé des recours en justice avec les associations environnementales.
Si vraiment les travaux venaient à commencer cet hiver ou au printemps, particulièrement au printemps ou à l'été d'ailleurs, est-ce qu'il y aurait une possibilité que des gens se mettent à camper sur place, à empêcher les travaux de se faire, à faire vraiment de la désobéissance civile et finalement à installer une zone à défendre, comme on a pu le voir voilà, à Notre-Dame-des-Landes, à Sivins, un petit peu partout ?
Alors nous on n'appelle pas forcément à ça, mais il est évident qu'à un moment donné, quand il y a un projet incohérent comme ça, et que des citoyens interpellent les élus sur cette incohérence et que ces mêmes élus nient cette incohérence et qu'en plus ils décrédibilisent et ils sont même en fait ils sont hyper grossiers, quoi. Je veux dire, nous de notre côté on est très polis, eux de leur côté en fait ils sont assez grossiers et assez à côté de la plaque, en fait. Quand ils décrivent en fait nos actions, ils décrivent nos intentions. Donc à un moment donné, si les interpeller sur cette incohérence, ça ne suffit pas, c'est tout à fait normal en fait qu'il y ait d'autres dynamiques qui se mettent en place. Et la responsabilité, elle revient à ces élus en fait. Ces élus qui ont fait un mauvais choix, Ce choix qui n'est même pas en accord avec l'urgence écologique qui est clamée au niveau national, au niveau européen, au niveau mondial. Donc à un moment donné, effectivement, si la réalité demande à ce que les lois soient améliorées, mais que les élus, les responsables politiques ne veulent pas accorder leur violon avec cette nécessité, eh bien, voilà, les dynamiques de ZAD, de désobéissance civile sont légitimes.
Après, le collectif, par contre, il va appeler à mobilisation le jour où on voit des chantiers commencer. Le collectif fera un appel à tous les sympathisants, à tous les gens qui veulent venir, se mobiliser devant le chantier. Et voilà, on va faire des animations. Tout le monde est bienvenu s'il a des animations à proposer. Faire quelque chose de pacifique, de festif, de pas de violence. Et c'est ça, nous, qu'on vise. Après, le truc de la ZAD, ça, c'est de l'autogestion. C'est plus du ressort du collectif. C'est des gens qui veulent s'organiser, c'est autre chose. Et une ZAD, nous, on ne fait pas un appel à la ZAD, on ne va pas diriger une ZAD, on ne fait pas un truc... les gens sont grands, ils se débrouilleront comme ils veulent et comme ils peuvent.
Bon, bah, les intentions sont posées, j'entends ça. Joseph ?
Il faut préciser quand même qu'on est totalement déterminé à avoir le résultat des recours avant que les travaux commencent. Parce que la grande tendance à l'heure actuelle, c'est de laisser les travaux commencer. Ils se font et les fois, souvent même maintenant, la justice donne raison aux opposants.
Quand il est déjà trop tard, quand le mal a été fait. Voilà. D'accord. Bon, bah, on va continuer à parler de votre lutte après nous écouter un petit morceau de musique, histoire de se remettre en jambes. Et puis d'aller chercher une consommation au comptoir, probablement.
You might know me from such places as the one you inhabit. I'm the air you breathe and the land on which you're standing, the food that you eat. But I'm getting a little bit dark on some of the ways you treat me. Everything you need, yet still you want more. You're falling over yourselves with greed. Yeah, it's time I remind you to exercise restraint. Because if there's one thing you should know, it's infinite I ain't. You better L-I-M-I-T. What you take from me. Now you've been having a field day on my skin, cutting it up, burrowing in. But I'm reaching for my skin lotion to take away the pain. You better start to regulate your lifestyles of excess. Cause I'm picking up my telephone and dialing up the pest control guy. So get your L.I. L-I-M-I-T on. Cause I've got limits and I'm not afraid to use them. With your bad habits, where you do nothing but abuse them. Yeah, I've got limits. Keep going!
Now it's time to check yourself and stop pointing fingers out. Because self-responsibility is what it's all about. Stop relying on the top, 'cause it starts here on the ground. Just get back to your guidance, people. Stop fooling around. Yeah, get back, get back. I said get back, get back. Just get back. I've got limits, and I'm not afraid to use them. Harsh consequences, well, I'm about to introduce them. Oh, yeah, I've got limits, and I'm not afraid to use them.
J'ai des limites et je n'ai pas peur de m'en servir. C'est le message de ce morceau de Formidable Vegetable Sound System dans lequel notre planète nous met en garde. Vous êtes de retour sur Radio Balade. Vous êtes accoudé au comptoir du monde en compagnie des clients du Café de Fa. Bonsoir. Nous sommes avec Joseph, Laetitia et Lilian du collectif à Pas de Loutre qui se bat contre le projet Coucou à Montbel de l'eau, un projet privé soutenu par des pouvoirs publics, une lutte citoyenne, des ingrédients qu'on retrouve un peu partout en France. Nico, pour nous permettre de prendre un peu de hauteur, tu as été mettre ton nez dans d'autres affaires du même type.
Ouais, bah écoute, c'est pas la première fois qu'on parle de l'eau dans notre émission, puisque l'an dernier on avait déjà évoqué les usages de l'eau dans la Haute-Vallée. On avait questionné à ce sujet Nadine, qui est là ce soir avec nous, de l'association R, et puis Monsieur Chanot, qui est maire du Val du Fabi. Alors, qui dit eau dans la Haute-Vallée dit usine d'eau à Alette, toujours en projet, si j'ai bien compris, information à suivre. Bataille autour de la municipalisation de la distribution d'eau, délégation de services, donc bénéfices pour les multinationales. Qui dit eau dit aussi les paysans du coin, hein, qui sont un tout petit peu moins fortunés que Sor, Suez et Veolia, et qui nous rappellent continuellement combien l'eau est si rare, attendue, espérée. Alors comme nous l'ont rappelé nos invités, qui dit eau dit milieu de vie animal, végétal, et puis aussi humaine, hein, autour des lacs, rivières, ruisseaux, et puis de notre fleuve qui coule ici, l'Aude, qu'aujourd'hui plus que jamais il nous appartient de préserver.
Mais préserver de quoi ? Je veux dire, l'eau, c'est vraiment une ressource en péril sur le territoire ?
Et oui, l'eau douce, c'est l'or bleu. Et même plus, car l'or, on peut s'en passer. Nous ne sommes pas composés d'or. Je parle pour nous qui sommes là. Or, l'eau, c'est une autre affaire. Au contraire de l'or, elle paraît abondante quand on sait qu'elle couvre 70% de la surface de notre planète. Mais seulement, il y a un hic, c'est que l'eau douce ne représente que 2% de toute cette eau de la planète. Seule l'eau douce soutient la vie terrestre, notamment la vie humaine. C'est donc un bien rare, précieux, qui, s'il est contaminé, peut ne plus pouvoir remplir ses différents rôles écologiques. Or, et là je viens sur la question, l'humanité s'approprie une part significative de l'eau douce, la retire aux écosystèmes dont on dépend, et puis la rend inaccessible, y compris pour notre propre utilisation, et la contamine. Alors aujourd'hui, je vous parle d'une forme d'accaparement de l'eau, celle destinée à l'irrigation agricole. C'est donc l'histoire des méga-bassines, qui est une histoire d'actualité récente. Alors on a discuté dans cette émission d'agriculture, de son présent, de son avenir, sur le local, pour bien savoir qu'il existe plusieurs modèles agricoles. Il y a celui qui pèse lourd aujourd'hui, le gros camion là qui fonce dans le mur, et qui bénéficie de moyens immenses, que ce soit en termes de capital, de soutien financier, de relais politiques et syndicaux, c'est-à-dire l'agro-industrie. Ce modèle s'exerce au détriment des autres, car il repose sur la concentration des terres, les moyens de production, de la richesse, entre des mains de moins en moins nombreuses, et aussi de moins en moins agricoles d'ailleurs. Et pour exploiter la terre, pour la faire cracher au max, la FNSEA et leurs relais gouvernementaux défendent ce système des méga-bassines.
Alors comment ça fonctionne ces méga-bassines, Nicolas ? On parle de quoi là exactement ?
On parle d'un système d'irrigation parce qu'en France, 5% des surfaces agricoles sont irriguées, soit près de 1,4 million d'hectares. Ce qui dépend bien sûr selon les régions, puisque par exemple en Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est 14%. Alors les mégabassines, ce sont des stockages d'eau, mais ce sont des stockages remplis principalement par des systèmes de pompage dans les nappes phréatiques et les cours d'eau. Donc il ne s'agit pas de récupérer seulement une eau qui tombe, mais bien d'aller chercher l'eau dans ces espaces naturels de stockage. Alors, il faut savoir que quand même que l'eau stockée à l'air libre dans ces mégabassines devient stagnante et subit donc un phénomène d'évapotranspiration, ce qui est un non-sens, parce que quand on regarde une nappe phréatique, bien, ce phénomène n'existe pas. Et en plus, la nappe phréatique préserve en théorie la qualité et la quantité de l'eau. Alors, les partisans de ces mégabassines appellent ça des réserves de substitution. Et ils prétendent que ces systèmes sont des ouvrages qui permettent de diminuer la pression sur la ressource en eau en substituant des pompages de printemps-été par des pompages d'hiver. En gros, on pompe l'hiver au lieu de pomper au printemps. Mais pomper en hiver, ça n'empêche pas de créer une pression sur la ressource, quoi qu'il en soit. Parce que parfois, la pluviométrie est insuffisante et puis les nappes se rechargent de plus en plus tardivement. En tous les cas, les mégabassines exercent une pression sur les capacités des milieux aquatiques à se renouveler. Et en fait, quelque part, on assiste à la privatisation de la ressource en eau au profit de quelques exploitants agricoles. Et cela met en difficulté tous les autres agriculteurs et ça compromet de nouvelles installations et c'est bien ce qui est problématique.
Et il vient d'où cet argent en fait ? Qui finance cette privatisation ?
Eh bien, c'est ce dont on parlait juste à l'instant pendant la coupure musicale, parce que cet accaparement, il est majoritairement financé par des fonds publics.
Par nous ?
Eh oui, par nous, tout à fait. 70% s'agissant du projet qui a fait grand bruit dans les Deux-Sèvres à Mauzé-sur-le-Mignon, par exemple, provient de fonds publics. Et donc, ça permet la pérennisation du modèle agro-industriel en place. Alors c'est vraiment une très grande surprise, j'imagine, pour tout le monde dans ce café. On n'aurait vraiment pas pensé à une source de financement aussi originale, peut-être parce qu'on n'est pas habitué à ce que les gros intérêts privés se nourrissent à la gamelle fort large du trésor public. Donc c'est bien pour défendre une autre vision du modèle agricole qu'en novembre 2021, des centaines de paysannes et de paysans venus de toute la France, éleveurs, maraîchers, irrigants ou non, ont convergé ce 6 novembre à Mauzé-sur-le-Mignon. Il y avait là plus de 3000 personnes et 25 tracteurs. Et donc ce jour-là, il y a eu démontage des installations de pompage d'une mégabassine de 5 hectares située en Charente-Maritime. Puis les organisations à l'origine de cette mobilisation ont porté leurs revendications au ministère de l'Agriculture. Le premier enjeu pour elles était de faire entendre à quel point le modèle actuel est dévastateur et extrêmement gourmand en eau. Qu'il s'agisse de repenser ce modèle et non de poser une rustine sur quelque chose qui paraît sans avenir.
Mais finalement, il y a eu un Varenne agricole de l'eau et du changement climatique en mai 2021, qui a été lancé par le gouvernement. On sent qu'il y a quand même certaines revendications qui ont été entendues sur ces points-là, non ?
Eh bien, écoute, les conclusions de ces travaux, sous l'égide du ministère de l'Agriculture, ont été rendues publiques en février. Donc, selon le Gorafi ou le Figaro, le gouvernement a promis mardi aux agriculteurs français de subventionner des équipements qui leur permettent de consommer moins d'eau, mais aussi de faciliter leur projet de stockage de cette ressource disputée. Et bah, c'est là que le bât blesse. Alors, à ce micro, on avait parlé du plan en France 2030. Hein. Vous vous souvenez, c'est cette envolée d'Emmanuel Macron qui est toujours assez lyrique dans ses interventions. Pour réussir cette nouvelle révolution de l'alimentation saine, durable et traçable, nous devons investir dans trois révolutions, le numérique, la robotique, la génétique. Eh bien, dans le cadre de ce plan, il semble qu'il a oublié les mégabassines, puisque notre Premier ministre a annoncé que pas moins de 200 millions d'euros sont prévus pour aider les agriculteurs à s'armer face au changement climatique. Donc il nous parle de matériel permettant d'économiser l'eau, de développement de variétés résistantes à la sécheresse, ou encore d'expérimentation, et c'est là que c'est intéressant, pour la récupération des pluies diluviennes hivernales et pour la réutilisation des eaux usées. Donc effectivement, là, on voit déjà que la brèche est créée pour ces installations. Et il y a une question qui est intéressante, c'est que le gouvernement, en fait, par ce Varenne, veut renforcer le rôle des préfets pour faire aboutir plus vite les démarches de concertation locale, dont on a bien expliqué qu'elles étaient déjà un peu abîmées.
Oui, la concertation, c'est un mot qui est déjà un peu fort pour ce qui se passe.
Voilà, mais il faut que ça aille encore plus vite. Parce que, comme le dit Jean Castex, une concertation, ça ne peut pas durer 10 ou 15 ans. Il faut enfin avoir le courage d'avancer et de décider, même quand c'est compliqué. Donc le Premier ministre souhaite que les préfets puissent faciliter les prélèvements d'eau par les agriculteurs l'hiver. Il nous dit, une fois que ces besoins de recharge des nappes phréatiques seront satisfaits, il serait dommage de ne pas capter l'eau excédentaire pour la stocker au moins jusqu'à l'été suivant. Alors on imagine qu'ils vont se doter de tous les instruments de mesure pour nous expliquer que les nappes phréatiques sont pleines. Voilà, donc je finis ma chronique en disant simplement que forcément, du côté de certaines associations et syndicats tels que la FNSEA, on applaudit. Et par contre, les associations environnementales manifestent leur mécontentement, notamment France Nature Environnement et plusieurs autres associations ainsi que la Confédération Paysanne, puisqu'ils nous disent en gros qu'il y a un gros impensé dans ce Varenne, c'est tout simplement la façon dont on pourrait économiser l'eau, qui est quand même la première base pour une agriculture un peu plus durable.
Merci Nicolas. On va tout de suite offrir un droit de réponse à notre ami Emmanuel. On l'écoute.
Je n'ai aucun mea culpa à faire, ni aucun remords, ni aucun constat d'échec.
Ben voilà, c'est fait. Merci. Bon, vous le savez, la liberté d'expression ne s'use que quand on s'en sert pas. Alors on en profite d'avoir une radio associative à nous pour donner la parole aux citoyennes et aux citoyens de la Haute-Vallée de l'Aude. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour nos invités? Alors, on n'a pas énormément de temps, on a encore trois petites minutes devant nous, mais c'est l'occasion peut-être de prendre une question et on a effectivement un pilier aussi hein, du Café de Fa. Georges, prends place pour pouvoir poser ta question. Tu es assis sur les genoux de Nicolas, c'est magnifique, et on t'écoute.
Oui, c'était pour une réflexion locale concernant les bassines. Il faut savoir que dans le Limousin, eh bien, il y a une pression des viticulteurs pour en créer, que le syndicat qui s'appelle SMA, le syndicat mixte d'aménagement hydraulique, suit positivement ces dossiers-là. Quand on a parlé tout à l'heure, Nicolas, des fonds publics, c'est l'agence de l'eau. L'agence de l'eau, on la paye en partie avec notre facture d'eau. L'agence de l'eau qui est là pour, premièrement, protéger la ressource. Mais elle redistribue l'argent. L'agence de l'eau a été contributrice au barrage de Sivens, il faut le dire aussi. Bien sûr, les conseils départementaux et les agences, pour Sivens, c'était l'air à la Dour. Et le problème avec aujourd'hui, c'est que cette agence de l'eau, pour des communes, fait du chantage. C'est-à-dire qu'en communauté des communes, Haute-Vallée de l'Aude, par exemple, Pyrénées-Audoises, eh bien, quand une commune veut faire un aménagement, mais un investissement sur le réseau d'eau, elle fait appel à des subventions. Et le problématique, c'est que, comme on a délibéré qu'on ne voulait pas donner l'eau en délégation à la communauté des communes, qu'on voulait se garder la gestion en commune, eh bien l'agence de l'eau baisse les subventions. Donc au lieu de qu'avoir 80% pour refaire un réseau ou une station d'épuration, on n'a plus que 15%.
Oui, ça nous met... Montbel, c'est une grande bassine. Hein. L'eau est prise dans une rivière l'hiver et elle est stockée. Il transite dans le lac de Montbel entre 80 et 100 millions de mètres cubes pour une réserve de 60 millions. Donc on redistribue déjà de l'eau régulièrement, soit pour turbiner, etc. Et il y a un projet simultané au projet des cabanes, c'est de détourner la rivière Touyre pour 10 millions de mètres cubes annuels dans le lac de Montbel, en rappelant simplement que il n'y a aucune compensation demandée aux irrigants, qu'il y a déjà 30 matières actives dans les nappes phréatiques en aval, et que c'est une véritable catastrophe écologique, ne serait-ce que ce système d'irrigation, d'agriculture, comme tu le disais tout à l'heure.
Bon, bah je vois qu'on est bien, la situation s'améliore, franchement, à Montbel. Nous, on a une nouvelle question. Hélène, on a une grosse minute devant nous, donc ce sera peut-être davantage une question pour tout le monde, pour nos auditeurs et pour nous-mêmes, mais on n'aura peut-être pas le temps d'y apporter une réponse. On t'écoute quand même.
La question, c'est la concertation. Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est juste blessée, comme tu disais tout à l'heure? Je ne crois pas. Je crois qu'elle n'existe pas. Je suis élue et je suis bien placée pour voir à quel point le système est hiérarchique et qu'en fait, il n'y a pas de concertation avec les citoyens, mais il n'y en a pas non plus avec les élus, puisque en fait, tout au niveau des communes et toutes communes se passe de manière très hiérarchique. Et voilà, du coup, comme les élus, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ont quand même un poids dans leurs paroles quand ils viennent, par exemple, aux manifestations que vous organisez, c'est une question avec une réponse à l'intérieur, parfois ça arrive, c'est « Et si on proposait des balades naturalistes aux élus de la communauté de communes du pays de Mirepoix ?»
Je ne demande pas mieux que d'accompagner les élus dans ce travail. Moi, j'ai été moi-même élu président d'un syndicat, hein. Je connais très très bien cette problématique.
Bon bah super, le rendez-vous est pris. Hein. Hélène, tu es élue à la CCPA, à la communauté de communes des Pyrénées-Audoises, enfin, en tout cas dans les communes qui la composent. Donc tu peux aussi faire peut-être passer cette invitation, qui sait, à se rendre sur place, à rencontrer les naturalistes, à aller voir les loutres et les autres animaux qui risquent de se faire déloger par le coucou.
Ce serait très chouette qu'il y ait des rendez-vous pour les élus spécifiquement, ce serait vraiment bien.
Laetitia ?
Oui, je voulais juste rajouter en fait que c'est vrai que l'on a beaucoup parlé du collectif, mais voilà, il ne faut pas oublier le CEA, le Comité écologique ariégeois, le Chabot, Nature en Occitanie et France Nature Environnement, qui sont les associations environnementales et qui veillent sur l'écologie et l'environnement de notre département et qui sont engagés juridiquement donc contre le projet Coucou. Donc, merci à eux.
Eh ben merci à vous aussi pour votre présence. Merci Laetitia, merci Lilian, merci Joseph, merci aussi Hélène et les autres pour leurs questions et Nicolas évidemment pour ta présence et tes infos précieuses.
Merci, à bientôt. Merci,
au revoir. À bientôt.
Et on se retrouve le mois prochain, toujours au Café de Fa. Prenez soin de vous. Il voulait faire mieux.